C'est le jour de la Pentecôte que nous retrouvons l'apôtre Pierre ce matin pour le 8e volet de notre série en cours. Le Saint-Esprit promis par Jésus et attendu par les disciples vient d'être donné aux disciples réunis. Sa venue se manifeste par des signes extraordinaires, dont un bruit comme celui d'un souffle violent. C'est ce bruit qui va attirer l'attention des Juifs pieux de la diaspora présents à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte et qui accourent pour voir ce qui se passe. Ils sont alors témoins d'un autre prodige, puisque remplis du Saint-Esprit, les disciples réunis parlent en d'autres langues, tant et si bien que chacun entend parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Si la perplexité s'empare de tous, dit le texte, les amenant à se demander ce qui est en train de se passer, certains, des moqueurs, déterminent que les disciples sont tout simplement ivres, pleins de vin doux, dit le texte. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Pierre se lève pour parler. Ce sera sa première prédication. Et c'est ce texte que je vous propose de considérer ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez, dans le livre des Actes, au chapitre 2. Je commence la lecture au verset 14 jusqu'au verset 36. Acte 2, chapitre, verset 14 à 36. Ça va venir, il y a toujours un petit temps, voilà. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et annonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles, sachez-le. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme de Dieu, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. » Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux. Mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le deuxième point que j'aimerais aborder après cette brève introduction concerne l'attitude pleine de zèle et de courage de Pierre. Pierre qui reprend ici son rôle de porte-parole, sa place et son rôle de porte-parole des disciples. Pierre qui se lève pour parler. Il l'avait déjà fait depuis l'ascension de Jésus quelques jours auparavant pour initier le remplacement de Judas par Matthias. Mais que Pierre l'ait fait dans le cercle restreint des disciples est une chose. Qu'il le fasse devant toute cette foule en est une autre. Comment Pierre est-il passé de la peur d'être associé à Jésus, peur qui l'a amené à renier son maître, à cette prédication pleine de zèle et de courage devant plusieurs milliers de personnes? Je vois essentiellement deux éléments de réponse à cette question. Le premier concerne la restauration de Pierre après son reniement par le Seigneur lui-même, tout d'abord en privé, puis en public, nous en avons parlé la dernière fois. Et le deuxième élément de réponse concerne la venue du Saint-Esprit. Une venue qui change radicalement la donne. Jusqu'ici, les disciples étaient entre eux. Après l'ascension de Jésus sous leurs yeux, ils sont retournés à Jérusalem et ils sont retournés dans la chambre haute. Acte 1, verset 13. Il semblerait qu'ils y aient passé un certain temps, peut-être même tout le temps. Peut-être même y étaient-ils cachés, encore cachés. Dans la crainte des autorités, la crainte des conséquences d'être associé à Jésus qui avait été crucifié comme un malfaiteur. Et puis Dieu a donné son esprit, comme il l'avait promis. Dieu a donné son esprit et tout a changé. Tant et si bien que Pierre se lève maintenant devant la foule. Il n'a plus peur d'être associé à Jésus, dont il va proclamer la résurrection. Pierre est devenu un témoin du Christ ressuscité. Souvenons-nous que c'est ce que Jésus avait annoncé juste avant qu'il les quitte. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Souvenons-nous encore de ce que Jésus avait dit avant de mourir. Jean 15, versets 25 et 26, « Quand viendra le défenseur, le consolateur, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage et vous aussi, vous rendrez témoignage. » Et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être témoins du Christ. Et cet Esprit, comme le dira Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 7, que Dieu nous a donné, n'est pas un esprit de timidité, dit Paul, ou de lâcheté, on peut traduire des deux manières, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de pondération. Bien sûr, tout cela, je parle de notre témoignage, n'est pas automatique. et rien ne se fait sans nous. Il faut le vouloir. Pierre a dû se lever. Il aurait pu rester assis. Pierre a dû parler. Il aurait pu se taire. Et puis, si ce n'est pas automatique, ce n'est pas non plus toujours facile. Il faut oser se lever. Il faut oser parler. Il faut se dévoiler. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut être prêt à être l'objet de moquerie. Être prêt à se renier soi-même. Être prêt à perdre un peu de sa vie. Un peu de sa réputation parfois. Combien il est précieux pour nous de savoir que l'Esprit qui nous a été donné, si nous avons mis notre foi en Jésus, est un esprit de force et non pas de timidité ou de lâcheté. Nous pouvons toujours compter sur le Seigneur quand il s'agit de témoigner. Nous pouvons toujours compter sur son secours, sur le secours de son esprit. Si nous sommes faibles, et nous le sommes, lui est fort et nous soutient toujours par son esprit. Ceci dit, il faut aussi dire ici que nous sommes tous différents dans ce domaine. Si nous sommes tous appelés à être témoins, des témoins, nous ne le sommes pas tous de la même manière. Pierre était courageux, intrépide par nature, c'était un meneur d'hommes. D'autres sont plus réservés et parleront avec moins de facilité, même en ayant l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit pas ici de copier ce que fait mon frère ou ma sœur en Christ, mais d'être témoin du Christ avec ce que je suis, et puis là où le Seigneur me place. Parfois dans des cercles élargis, parfois pour certains devant des grandes foules, mais pour la plupart d'entre nous, beaucoup plus souvent, dans des cercles beaucoup plus restreints, auprès de notre famille, auprès de nos amis, de nos collègues de travail ou d'études, de nos voisins, de nos amis d'enfance, etc. Attention à ne pas placer devant nous des objectifs irréalistes qui ne correspondent pas à ce que nous sommes et à ce que le Seigneur nous demande. Mais attention aussi à ne pas nous laisser aller à la facilité, aux excuses faciles, en nous abritant derrière ce que nous sommes, derrière nos limites et nos faiblesses. Que le Seigneur nous aide chacun à être le témoin de ce qu'il a fait pour nous, si nous sommes à lui. Car si nous sommes à lui, nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. De force car nous sommes faibles et il nous faut de la force pour nous lever et pour parler. D'amour car nous en manquons. Et c'est par-dessus tout ce qui rend notre témoignage crédible et sans doute audible. De sagesse car nous en manquons aussi. Et s'il y a des temps pour parler, il y a aussi, par exemple, des temps pour se taire, des temps pour simplement écouter l'autre. Pierre avait renié lâchement son maître devant une servante, dans un cercle restreint, devant un feu. Il se lève maintenant devant des milliers d'auditeurs et hardiment déclare que Jésus est ressuscité. Une transformation profonde a eu lieu en Pierre, par la restauration du Christ et par la venue, par le don de son esprit. Passons maintenant à ce que Pierre a dit, à sa prédication. C'est notre troisième point. De quoi est-il question dans ce discours? Quelle est la logique de l'apôtre? Quel est l'accent principal de ce propos? S'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait laquelle? Notons tout d'abord que Pierre commence par démentir cette idée, cette théorie de l'ivresse pour expliquer le comportement surprenant des disciples remplis de l'esprit. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez, dit-il au verset 15. Et l'explication qu'il donne de ce qui est en train de se passer, c'est qu'il s'agit de l'accomplissement d'une prophétie, et tout particulièrement de la prophétie de Joël. Et Pierre va citer les paroles du prophète Joël, ce sont les versets 17 à 21 que nous avons déjà lus. Ce qui est en train de se passer, dit Pierre, c'est que Dieu, par Jésus, vient de donner son esprit, comme il l'avait annoncé par le prophète Joël, et puis pas seulement par le prophète Joël, par d'autres prophètes dans l'Ancien Testament. Donner son esprit, mais pas seulement aux rois, aux prophètes ou aux prêtres, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais à tous, verset 17, littéralement, sur tous, sur toute chair, dit le texte. Après avoir fait le lien avec le prophète Joël pour expliquer les événements en cours, je ne vais pas rentrer dans le détail de la prophétie de Joël, ça serait un message en soi. Pierre passe ensuite directement à Jésus. Et que dit-il ? Il dit deux choses importantes qui sont en apparence contradictoires. Premièrement, il dit que Jésus a été livré par Dieu. Verset 23, cet homme livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu. En français un peu plus courant, je prends la traduction de Semeur, cet homme a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que vous avez crucifié Jésus. Toujours au verset 23, cet homme, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. Il faut comprendre par des sans-loi, par des non-juifs. Que dit Pierre ici ? Il dit premièrement que la mort de Jésus était dans le plan de Dieu, était prévu par Dieu. Et puis deuxièmement, que cela n'ôte en rien la responsabilité des actes de ceux qui l'ont crucifié. C'est le paradoxe de la prédestination divine d'un côté et du libre arbitre humain de l'autre. C'est ce paradoxe-là dans sa forme la plus forte. Oui, la croix était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas par accident que Jésus a été crucifié. Ce n'est pas par manque de moyens divins pour le sauver que Jésus a été crucifié. Il est l'agneau de Dieu immolé, offert en sacrifice dès avant la fondation du monde, dit Jean dans l'Apocalypse au chapitre 13, verset 8. Au même temps, vous, dit Pierre, vous êtes responsable de sa mort. Vous l'avez supprimé en le faisant crucifier. Notons que Pierre s'adresse ici à des hommes et des femmes qui n'étaient pas pour la plupart présents à Jérusalem au moment de la crucifixion, puisque ce sont des Juifs de la diaspora qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Et il souligne ainsi que la responsabilité de la crucifixion de Jésus est portée sur tous les hommes. Portée par tous les hommes. Pourquoi ? Parce que c'est pour le péché de tous les hommes que Jésus a donné sa vie. Alors, j'en entends certains dans leur pensée qui disent qu'il y aurait ici, bien évidemment, des distinctions à faire. Des distinctions à faire, par exemple, entre ceux qui pensent d'un côté que Jésus n'est mort que pour le péché des élus, et puis ceux qui pensent de l'autre que Jésus est mort pour le péché de tous les hommes. Ça aussi, c'est un message en soi. Je ne rentre pas dans le détail de ces considérations. Je dirais simplement que Jésus est mort afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Après avoir dit cela, Pierre en vient au cœur de son message. à son accent principal, à savoir la résurrection de Jésus. C'est ça le cœur du propos de Pierre. S'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait celle-là. Jésus est ressuscité. Vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Dieu l'a relevé, verset 24, en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort de Jésus n'est pas la fin de l'histoire, ni même une fin en soi. D'ailleurs, dit Pierre, il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Pourquoi ? Parce que Jésus n'avait pas de péché personnel qui justifiait qu'il reste sous la domination de la mort. Une fois subi le jugement de Dieu pour les péchés de celles et ceux qu'il représentait en donnant sa vie pour eux, il n'y avait plus aucune raison pour que la mort le retienne. Et Pierre va montrer, en citant le psaume 16 qu'il attribue à David, qu'il n'était pas possible, au verset 27, que Jésus soit abandonné dans le séjour des morts, que son corps voie la décomposition, car telle était la volonté de Dieu que David avait déjà prophétisé en son temps. En effet, les paroles de David sont en réalité prophétiques de Jésus, qui effectivement n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont le corps n'a pas vu la décomposition. David ne pouvait pas parler de lui-même, ne pouvait pas être en train de parler de lui-même dans ce psaume, parce que lui, il est resté dans la tombe et son corps s'est décomposé. Et c'est d'ailleurs le raisonnement de Pierre dans les versets qui suivent, les versets 29 à 31. C'est ce que Pierre nous laisse entendre, en particulier au verset 29, où il souligne que David est mort, qu'il a été enseveli, et la preuve qu'il y est encore, c'est que son tombeau est encore là parmi nous aujourd'hui, dit-il. Oui, c'est de Jésus dont parlait David prophétiquement dans les versets de ce psaume 16. Et il annonçait prophétiquement la résurrection de Jésus, dit Pierre. Et Pierre continue au verset 32 en affirmant que nous, c'est-à-dire lui et les autres apôtres, nous en sommes tous témoins, dit-il. Notons bien ici qu'en parlant de la résurrection de Jésus, Pierre ne cherche pas à la prouver, mais il se contente de l'affirmer. Il rend témoignage. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Nous voilà donc au cœur de la prédication de Pierre, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, fondement de la foi, fondement de notre foi. Résurrection sans laquelle notre foi n'est rien. Notons aussi que déjà avant la Pentecôte, Pierre avait mis l'accent sur la résurrection en soulignant que le remplaçant de Judas devait être un disciple qui a été témoin de la résurrection. Acte 1, verset 22. Notons encore que l'affirmation de la résurrection sera après la Pentecôte, au cœur de la prédication apostolique. Prenons simplement les prédications de Pierre dans le livre des Actes. Il y en a 5 en tout. Elles ne sont pas toutes très grandes, mais il y en a 5 en tout. Et dans chacune de ces prédications, la résurrection est le cœur, est au cœur. À la Pentecôte, nous venons de le voir, au Temple, au chapitre 3, devant le Sanhédrin une première fois, au chapitre 4, devant le Sanhédrin une deuxième fois, au chapitre 5, et puis chez Corneille au chapitre 10. Pourquoi la résurrection est-elle au cœur de la prédication apostolique? Parce que c'est la résurrection qui est la clé de voûte de l'édifice, sans laquelle il s'effondre. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous avez pour la plupart en tête les propos de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre proclamation, dit Paul, notre prédication est inutile. Notre foi est vaine, dit-il. Nous apparaissons, dit-il, comme de faux témoins. Nous sommes les plus pitoyables de tous, dit-il, si Christ n'est pas ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors vous et moi, nous ferions mieux de faire autre chose le dimanche matin, comme la grâce matinée, par exemple, ou du sport ou autre chose. Mais si Jésus est ressuscité, alors nous serions fous de ne pas en tenir compte. Nous allons y revenir dans un instant. Oui, Dieu a ressuscité Jésus, soulignant ainsi qu'il agréait le don de sa vie pour le péché, pour le pardon des péchés des hommes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu ne s'est pas contenté de ressusciter Jésus. Au verset 33, il l'a ensuite élevé à sa droite, et après avoir reçu du Père le Saint-Esprit, Jésus l'a donné, l'a répandu à la Pentecôte, et ils en sont tous les témoins. C'est pourquoi, je reviens juste, ça ne veut plus, avance juste la suivante. Non, on va revenir à celle d'avant alors. Encore ? Merci, voilà, c'était au verset 33. Et puis, au verset 36, il dit « Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu a fait Jésus Seigneur et Christ. Ce qui a été prophétisé a été accompli en Jésus, que Dieu a fait Seigneur et Christ, en vertu de sa résurrection et de son élévation. Dieu a fait de Jésus le Seigneur et le Christ. » Ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas avant. Il l'était pendant tout son ministère terrestre. Mais par sa résurrection et par son élévation, il n'y a plus de contestation possible. Et c'est la raison pour laquelle, et on peut passer, puisque j'ai plus le contrôle, à la diapo 2 après, la suivante encore, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. » Et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que s'est-il passé ensuite? Chacun est-il ensuite retourné chez lui, fort des explications de Pierre? Je vous invite à lire la suite de notre texte, et je lis juste les versets 37 à 41, dans la suite donc du chapitre 2. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, repentez-vous. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées, comprenons, à l'Église. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous ferions mieux de faire autre chose le dimanche matin et parfois d'autres jours de la semaine. Mais si Jésus est ressuscité, alors nous ferions bien d'en tenir compte et nous serions même insensé de ne pas le faire. Verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Ceux qui écoutaient Pierre ont été touchés. Ils ont eu le cœur transpercé parce que Pierre a dit, « L'Esprit de Dieu qui produit la repentance était en train de travailler leur cœur. » Et ils se sont alors tournés vers les apôtres pour leur demander ce qu'ils devaient faire. Et que leur a dit Pierre ? Il les a invités à se repentir et à recevoir ensuite le baptême pour le pardon de leurs péchés. Notons bien ici l'ordre des choses. La repentance est la foi qui précède le baptême, et c'est toujours le cas dans le Nouveau Testament. La repentance, car il me faut prendre conscience que je suis pécheur, perdu à cause de mon péché, sous la colère de Dieu à cause de mon péché. La foi, car il me faut alors mettre ma confiance en celui qui est mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification, et que Dieu a fait Seigneur et Christ. Chers amis, il est parfois possible d'avoir le cœur touché et de ne pas aller plus loin. Ces Juifs auraient pu en rester là et se dire qu'ils avaient passé un bon moment, plein d'émotions, et passer ensuite à autre chose. Quand Dieu touche notre cœur par son esprit, il nous appartient ensuite de faire le pas suivant. Avez-vous été touché par Dieu ce matin, depuis le début de ce culte, par sa parole, par son esprit ? Dieu a-t-il parlé à votre cœur ? Et la vraie question est celle-ci, si oui, qu'allez-vous faire maintenant ? Repartir comme si de rien n'était, en vous disant « j'ai passé un bon moment, c'était bien, je reviendrai la semaine prochaine ». Ou alors vous approchez de Dieu pour faire ce qu'il vous invite à faire. Ce jour-là, lisons-nous au verset 41, « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. » 3000 personnes ajoutées à l'Église. Quelle pêche miraculeuse pour celui que Jésus avait appelé justement après une pêche miraculeuse, en lui disant « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Les filets sont bien remplis là. 3000 personnes. Et c'est ainsi que l'Église de Jésus-Christ est née, en cette première Pentecôte après la résurrection de Jésus. Oui, il était Pierre. Et sur cette pierre, Jésus a commencé ce jour-là à construire son Église, qui depuis s'est répandue sur toute la surface de la terre. Et rendez-vous compte, jusqu'à Nîmes, même jusqu'à Nîmes, et jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse la grâce à chacun de lui ouvrir notre cœur. Il veut notre bonheur, et notre bonheur le plus grand, c'est de trouver notre place auprès de Dieu. Il y a beaucoup de bonheur sur cette terre. Mais le bonheur le plus grand, c'est de trouver notre place auprès de Dieu. Peut-être pour la première fois ce matin. Peut-être à nouveau, après un temps d'éloignement. Peut-être dans la continuité de notre attachement fidèle au Seigneur. Par sa grâce. Amen. Je vous invite.